Vous écoutez France Culture.
Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Nous enregistrons deux émissions hors nos studios. Nous sommes à Marseille en accompagnement des événements autour des rencontres d'Averroès qui sont à leur 16e édition. Je dois dire que c'est des rencontres fort impressionnantes par le public qu'elles attirent. Nous sortons d'un auditorium comble, 1200, 1400 personnes peut-être, qui ont écouté la dernière table ronde, la dernière discussion. Cette année, le thème était autour du tragique et parmi... Nos deux invités, Mahmoud Hussein, qui sont deux en un, tout le monde le sait maintenant, deux corps, une seule tête, un corps, deux têtes, je ne sais pas, deux têtes qui font une, d'une part, nous allons parler surtout de leur dernier livre, même si nous allons leur poser une question sur... ce qu'il en a été de ce lieu de profondes ténèbres, parce que là, nous sommes au dehors, dans la verrière, dans le hall, et nous avons accès à un très bel azur, azur disparu à l'intérieur, mais il était peut-être
dans les esprits.
Mental. Et Jean-Christophe Attias, qui a très souvent écrit en co-signant lui aussi, quelque part lui aussi, ces deux corps...
Deux têtes. Mais travaillant beaucoup ensemble
avec Esther Benbassa. Vous appartenez les deux d'ailleurs à la même institution, l'école pratique des hautes études.
Voilà, c'est ça.
Dans la section qui concerne le travail sur les religions.
La section dite des sciences religieuses.
Des sciences religieuses. Vous travaillez beaucoup sur le judaïsme et là, je focalise... le regard et j'oriente lui de nos auditeurs sur leur petit et beau livre « Juifs et musulmans, une histoire partagée et un dialogue à construire », livre qui est paru aux éditions de la Découverte, un ouvrage collectif en 2006 sous la direction d'Esther Benbassa et de Jean-Christophe Attias. Jean-Christophe Attias, vous-même venez de participer à cette échange, à cette conversation devant une foule dense et immensément attentive dans le cadre de ces journées d'Averroès à Marseille. Je rappelle aussi que le livre de Mahmoud Hussein a pour titre « Penser le Coran » qui est paru aux éditions Grasset dans la suite des deux gros volumes sur la Sira, sur la biographie du prophète de l'islam. Ce temps où Mahmoud Hussein se trouve focalisé sur le sujet islam. Nous parlerons peut-être, nous évoquerons leur long parcours, puisque leur premier livre a été un livre très important qui a marqué une génération et qui est paru à la fin des années 60, début des années 70.
69,
voilà. Et c'était l'époque marxiste, et là vous étiez au cœur de l'interrogation marxiste, donc comme les temps ont changé, hein, n'est-ce pas ? Le marxisme était au centre, désormais nos préoccupations sont autour de l'islam maintenant. Est-ce que lors des deux dernières tables rondes auxquelles vous avez assisté en tant qu'auditeur pour la première, en tant que protagoniste et participant pour la seconde, s'est posé la question qui est une question historique majeure, ce constat en tous les cas, de très grandes choses ont été faites en langue arabe et en islam à partir des Grecs, la quasi-intégralité du corpus grec philosophique, scientifique, technique a été traduit, et aucune des tragédies n'a été traduite.
C'est curieux que vous commencez par ça.
Ah, ça me paraît immensément important. Parce que la tragédie grecque n'est pas parvenue aux musulmans.
Exactement, parce que pendant les deux heures que nous avons passées à discuter de ces problèmes, j'avais envie de dire ça, de poser la question, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Mais effectivement, parce qu'on a parlé de Averroès. On a dit qu'Averroès ne trouvait pas de traduction pour le mot tragédie et comédie. Et je voulais dire que...
Et pardonnez-moi, c'est pas lui qui n'a pas trouvé. C'est ça qui est très important. Le traducteur, Meta, qui est un traducteur chrétien, a essayé d'adapter les deux notions à deux catégories poétiques arabes. Il avait traduit la comédie par
le louable et le blâmable.
Par le haja, c'est-à-dire la satire. Et il a traduit la tragédie parce que il a vu qu'Aristote, en parlant de la tragédie, il parle du sublime et du noble, par le panégyrique, qui est le genre noble et sublime dans la tradition poétique propre aux Arabes. Donc il y a eu une énorme confusion qui est à l'origine de la fameuse nouvelle de Borges, La quête d'Averroès, dans Aleph.
Ouais.
Alors un autre élément passionnant dans la poétique, le commentaire de la poétique d'Aristote, où Aristote se libère d'une manière extraordinaire pour la partie rhétorique et pour ce qui concerne la composition de l'œuvre, parce que là, il est en terrain connu, si j'ose dire. Mais il se casse la tête pour essayer de trouver un équivalent à Œdipe, puisque dans la poétique d'Aristote, pour lui, la réalisation parfaite de la tragédie, c'est Œdipe roi par Sophocle. Et il ne trouve pas. Et qu'est-ce qu'il trouve finalement? Et c'est là où ça devient assez passionnant. Il confond, je crois, tragédie et tragique, Abraham et son hésitation et le drame du sacrifice du fils. Donc, pratiquement kierkegaardien, par défaut. Par défaut, annonciateur de Kierkegaard.
Ouais.
Et je crois que vous avez beaucoup parlé d'Abraham comme figure du tragique dans la...
Mais moi, je voudrais
ce à quoi vous avez assisté.
Insister sur un autre point avant de passer à Abraham. C'est que moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y avait l'Iliade et l'Odyssée, qui étaient des œuvres poétiques. Et les Arabes sont connus pour être très poètes. Ils adorent la poésie. Depuis longtemps. Je crois que c'est la manifestation artistique où ils excellent, où excellent. Et pourtant, ils n'ont pas traduit les tragédies ni les comédies, ils n'ont pas traduit...
L'épopée.
L'épopée.
Mais elle était connue.
Connue, mais pas traduite.
On a des extraits, elle était connue, le nom d'Homère était connu, il circulait.
Mais ça ne vous surprend pas?
Alors qu'aucun des tragiques ne circulait. Mais vous savez pourquoi? Mais ça, c'est une autre affaire, c'est technique. Le débat était qu'on ne peut pas traduire la poésie. C'est ça le problème. La poésie était intraduisible. Nous avons de très belles pages dans le livre des animaux du plus grand polygraphe rationaliste, d'ailleurs lui-même hellénisant, où il réfléchit sur cette impossibilité en raison de la perte. La perte est telle pour la traduction de la poésie qu'il ne faut pas traduire. Et que les Arabes sont tellement forts en poésie qu'ils n'ont pas besoin de traduction de poèmes. Ça a été très cher payé, je crois. Jean-Christophe Attias, à propos d'Abraham et le tragique, et ce passage, ce glissement de la tragédie au tragique.
Abraham, il est réapparu à la fin du débat, finalement, puisqu'on l'avait injustement exclu. Effectivement, il y a dans la vie d'Abraham, telle qu'elle est racontée, en tout cas déjà par la Bible, une dimension presque tragique. Presque tragique. Encore que les choses puissent se discuter. Le sacrifice du fils n'a finalement pas lieu. Encore que, même le texte biblique se prête à des interprétations plus ambiguës et plus interrogatives. Mais l'enseignement majeur, malgré tout, dans le judaïsme, c'est que le sacrifice n'a pas lieu, mais qu'il a malgré tout été consenti. Hein, puisque Abraham, finalement, accepte de sacrifier son fils. Et c'est Dieu qui l'empêche de sacrifier son fils.
Je voudrais vous poser une question. Pourquoi Dieu impose ce sacrifice à Abraham?
C'est à moi que vous posez la question.
Mais... Peut-être que vous avez un élément de réponse que nous n'avons pas.
Je pense qu'il faudrait demander au principal intéressé, lequel n'est pas invité à cette émission. C'est une question en soi. Moi, personnellement, c'est une question qui me gêne. Le fait que Dieu puisse demander cela, c'est un premier scandale. Et le second scandale, c'est que le Père accepte, même si diverses traditions et même le texte biblique en le regardant de près...
Mais ce n'était pas dans la tradition, à l'époque, de sacrifier un être humain.
Ça, c'est un autre problème, hein, parce que l'idée, c'est précisément qu'en empêchant le sacrifice au dernier moment, finalement, on rend le sacrifice humain impossible, illicite, etc. Puis mais il y a trois scandales quand même dans cette
affaire. On met en place quand même...
Ça augmente.
Non, il y en a trois. Il y a que Dieu demande ça, que le Père accepte. Et selon la tradition rabbinique, le Fils accepte aussi d'être sacrifié.
Ah oui, d'ailleurs dans le texte coranique,
le récit islamique,
le consentement du
fils. Il y a
fils
le consentement,
est là.
Exactement.
Il est absolument là.
Exactement.
Oui.
Et là, il y a effectivement trois choses qui vues d'ici, c'est-à-dire du début du XXIe siècle, peuvent nous paraître choquantes. C'est-à-dire la demande d'un tel sacrifice et le consentement au sacrifice et du sacrificateur et du sacrifié.
N'est-ce pas une très belle scénographie de la mise en scène d'une mise à l'épreuve pour mettre en place la possibilité de la substitution?
Alors la seule justification a posteriori, hein, c'est de dire que c'est une mise à l'épreuve, à savoir que Dieu teste la foi d'Abraham, jusqu'où Abraham est capable d'aller dans le service qu'il rend à son Dieu. Et le deuxième enseignement, c'est que finalement le sacrifice est interdit, la victime, on lui substitue un animal. Donc, en quelque sorte, ce qui est intéressant, c'est qu'on pose une limite, le récit pose une limite à ce qu'il est autorisé de consentir à Dieu lui-même. Quand Dieu arrête le bras d'Abraham, en fait, qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est que si je ne suis pas là pour retenir ton bras, eh bien, retiens-le toi-même, à savoir qu'il y a des sacrifices à ne pas consentir à Dieu lui-même. Moi, c'est comme ça que je le lis maintenant, et je pense que c'est l'ultime justification du récit, à savoir c'est l'interdit du sacrifice humain, du sacrifice extrême.
Mais à un moment, vous avez dit, au début de votre développement, que finalement, le sacrifice n'a pas eu lieu, mais c'est comme s'il avait eu lieu. C'est très exactement la position d'Averroès. Et c'est la raison pour laquelle il trouve équivalent à Œdipe, Abraham, pour illustrer cette insertion d'Aristote dans la poétique, où il dit « Une des particularités, un des attributs de la tragédie, c'est qu'il y ait du crime à l'intérieur des liens de sang. »
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y a pas eu le crime.
Il n'y a pas eu le crime.
C'est comme si...
Oui, mais il n'y a pas eu...
Non, mais ça me gêne. Puisque vous êtes gêné vous-même, alors je vais ajouter mon gêne aussi. Ça me gêne parce que ça signifie que Dieu joue avec les gens.
C'est-à-dire là... Et là, on est dans le ressort du tragique. C'est qu'il y a une part de jeu. La mise à l'épreuve, c'est...
Vous savez que le Dieu de l'islam, c'est choquant pour l'apparition et la forme de Dieu dans la Bible, est un Dieu non seulement joueur, mais capable de stratagème, le fameux makr, la notion de makr, donc capable de ruse. Et de ce point de vue-là, le Dieu de l'islam serait plus grec que biblique.
J'ai pensé à ce qu'on a dit tout à l'heure pendant la séance. Finalement... Abraham retient si bien la leçon ou l'anticipe si bien que il va, de la même façon que Dieu le met à l'épreuve, il va mettre Dieu à l'épreuve dans l'épisode de Sodome et Gomorre. Et là, les rôles sont inversés. C'est l'homme qui essaie de freiner, de brider la rigueur du jugement divin. Et je pense que c'est le deuxième aspect de l'histoire d'Abraham, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Dieu qui met l'homme à l'épreuve, qui l'instruit et qui l'humanise. mais il y a l'homme aussi qui met Dieu à l'épreuve et au défi d'être en adéquation avec ses propres règles. Le problème, c'est que le débat entre Dieu et Abraham ne se termine pas vraiment comme on l'aurait souhaité. Il y avait peut-être un seul juste à Sodome et Gomorrhe, et ça aurait peut-être justifié la non-destruction de ces villes. Mais je pense qu'il y a aussi cette... C'est ce qui est intéressant dans le récit biblique, c'est que le dialogue, il n'est pas égalitaire, mais la balle est souvent renvoyée à l'envoyeur.
Là, nous retombons sur nos pieds, en quelque sorte. Puisque tout le débat, au fond, à travers tous les aspects de la question que nous avons soulevée, est nous ramener constamment de Dieu à l'homme. La figure de Dieu, on la connaît à travers, puisque nous parlions du Dieu monothéiste, à travers des textes. Ils sont là, et on peut les lire, et on peut y trouver souvent ce qu'on y cherche. Donc, la figure de Dieu, bon, comment la lire, comment la vivre, comment réagir. Mais tout ça ne se pose que parce qu'à l'autre bout de cette polarité, il y a un homme qui a acquis un début au moins de liberté, liberté de conscience, sens de la responsabilité et début de raisonnement, début enfin, qui va plus ou moins loin. C'est-à-dire qu'il faut être libre et raisonnable et raisonnant pour pouvoir se poser ces questions sans quoi... un décret totalement arbitraire de Dieu ne pose pas de question. Quand vous êtes en fusion avec Dieu, quand vous acceptez par définition tout ce qu'il fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dimension tragique. Mais ce qui fait que quand on parle d'Averroès, on parle de la pointe la plus extrême de la pensée rationaliste musulmane, lui ne peut même pas penser le tragique. On ne va pas revenir sur la question, mais en fait, c'est qu'à partir du moment où on a cette liberté de conscience et qu'on comprend Dieu en lui attribuant une cohérence raisonnable, il n'y a plus de place pour le tragique. Le tragique commence à partir du moment où il y a des fissures, des fractures dans l'édifice. Il y a Dieu, et même s'il est tout-puissant, mais parfois... puisqu'on parlait du sacrifice d'Abraham, il nous demande des choses impossibles. Il est arbitraire, mais on a besoin d'aimer Dieu aussi, pas seulement de lui obéir. Et il y a donc ce problème insoluble à partir du moment où il y a liberté et il y a raison.
Vous avez dit aimer, avoir peur, oui. Et je pense qu'il faut résister.
Jean-Christophe Attias,
je pense qu'il faut résister, c'est un des enseignements de ces récits. C'est
alors là, la résistance...
La résistance à Dieu.
Vous reprenez une très grande figure de la résistance qui nous vient de la tragédie, qui est une figure emblématique pour la tradition occidentale, Antigone.
Absolument, je pense qu'il y a une dimension de résistance. Dieu met à l'épreuve, mais c'est pour qu'on lui résiste. Et c'est absolument pour qu'on lui résiste. Je pense que dans cette négociation d'Abraham et de Dieu à propos de Sodome et Gomorrhe, on a un exemple. Et on a d'autres exemples lorsque Moïse négocie avec Dieu. Il n'est pas seulement celui qui transmet, qui applique une loi qui lui est révélée par Dieu. Il résiste aussi, il négocie. Il y a un moment où Dieu en a assez de ce peuple infidèle, rebelle, et veut s'en débarrasser et confie à Moïse une autre mission avec un autre peuple. Et Moïse refuse. Donc, vous avez le célèbre épisode de Jonas qui refuse une mission qui lui est pourtant assignée par Dieu. Et la grandeur de Jonas, ce n'est pas d'obéir, c'est de résister. Et je pense que là, il y a des enseignements qui sont peut-être qui nous parlent plus à nous aujourd'hui que ceux de la simple soumission à l'appel divin, du simple respect scrupuleux de la loi révélée.
Problématique philosophique des musulmans. Avant l'avènement des Grecs en langue arabe, la toute première autour de cette figure de Hassan al-Basri au tout début du 8e siècle, avant les traductions, avant le processus des traductions, a été ce débat théologique intense qui a mis en tension le rapport entre le libre arbitre et la prédétermination, la prédestination. C'est-à-dire, on était sur le sol même où va se déployer le tragique dans la tragédie.
Tout à fait. Et même, il y a effectivement cette résistance à la parole de Dieu. Mais disons que nous, nous l'avons cherché à travers les chroniques sur la vie du prophète, à l'intérieur même de la communauté musulmane naissante.
C'est-à-dire dans votre livre en deux volumes, La Sirah, paru aux éditions Grasset.
Oui. Et donc, on montre qu'il y avait une espèce de familiarité avec Dieu. Et il est transcendant, il ordonne, on obéit, mais il y a ce mais, trois points de suspension. Je vais dire quelques mots là-dessus, mais je voulais juste suggérer ce à quoi je veux en venir. C'est qu'il y a une résistance, mais elle n'est pas demandée par Dieu. Elle peut être acceptée. C'est une nuance intéressante, parce que, en fait, tout se passe comme si Dieu, bon, il institue les fondements de l'islam, mais il institue aussi les fondements d'une cité musulmane sur terre, dans un certain moment, dans un certain lieu, et donc avec tout ce qu'elle a de conjoncturel et de circonstanciel. Et donc il accepte, c'est en tout cas le sentiment dominant que l'on peut avoir à travers tous ces récits, il accepte que les hommes s'adressent au prophète pour lui dire, mais là, Dieu, il va trop loin, il nous demande vraiment plus que nous pouvons donner. Et Dieu accepte d'intervenir, de changer même un décret qu'il a pris.
Il y a négociation.
Respectueuse,
mais négociation. Une des plus belles négociations implique votre Moïse. Prophète Jean-Christophe Attias dans
mon prophète.
Cette légende de l'ascension du prophète de l'islam, quand il rencontre Moïse, il dit à Moïse oui, Dieu m'a demandé 50 prières par jour pour les miens, et Moïse lui dit complètement fou, impossible. Bon, remonte et négocie à la baisse parce que jamais ils ne tiendront, jamais. Et voilà, des allers-retours qui ont fait que de 50, on est parvenu à 5 prières.
Ouais. Mais je pense qu'il y a plus que la négociation. Je pense qu'il y a aussi la dimension de révolte. Elle est intégrée à la tradition elle-même. Quand vous lisez le livre de Job, Job exprime véritablement une révolte, au point d'ailleurs que certains lecteurs...
Job qui est présent dans le Coran.
Oui, là, pour le coup, c'est aussi un personnage qui nous est commun. Ce qui est intéressant dans le livre de Job, c'est qu'il exprime, à l'intérieur même d'un corpus qui est canonique, qui est jugé inspiré, il exprime une révolte authentique, qui ne va pas jusqu'à la négation de Dieu, mais qui est une remise en cause de la justice de ses verdicts. Et ça va très très loin, au point que certains lecteurs de la tradition rabbinique se demanderont si Job est véritablement l'homme pieux qu'il prétend être. Il y a là, dans le texte lui-même, ce qui est intéressant dans ce type de texte, et ce que tendent à nous faire oublier des lectures, disons, soit consensuelles, soit monochromes ou littérales, il y a dans ces textes révélés, canonisés, intouchables dans leurs lettres, il y a les ferments de la remise en cause.
Ce ne sont pas des ferments, c'est la description d'une situation que nous ne connaissons pas aujourd'hui. C'est-à-dire comme Abdelwahab disait, et comme Al-El disait, par exemple l'histoire de Moïse, quand Mohammed monte, on voit Moïse comme un homme qui connaît Dieu, qui est très proche de lui, qui négocie avec lui, et il y a des affaires, plus ou moins, entre les deux. Alors, c'est lui qui conseille à Mohammed, et Mohammed accepte. Alors, là, tous les trois, on a devant nous presque trois personnes qui sont égales, mais avec un peu plus d'autorité. C'est comme un père. Et d'ailleurs, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qu'un prophète? C'est dans la Bible. Parce que le prophète, dans l'islam, c'est clair, c'est un homme qui reçoit le message de Dieu et qui essaie de le répondre. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Est-ce que tous les prophètes qui sont dans la Bible ont eu contact avec Dieu, contact direct?
Jean-Christophe Attias.
Oui, oui, bien sûr. Direct, contact en tout cas. Un bon contact.
La question du message, là, on parle.
Alors, oui, alors le prophète, ça n'est pas.
J'ai souvenir d'un passage de Maïmonide qui fait la distinction, c'est-à-dire le passage d'Abraham à Moïse, c'est que le contact était sans message pour Abraham, et là, il devient écrit, transmis pour Moïse.
C'est pas seulement ça. C'est, effectivement, il y a une différence presque de nature entre le prophète, là, pour le coup, on peut dire le prophète qui est Moïse, et les prophètes qui le suivent.
Et les patriarches qui le précèdent.
Et les patriarches qui le précèdent. Alors, ce qui est. Mais tous sont quand même en communication, plus ou moins directe. Ce qui est intéressant avec Moïse, c'est que sa prophétie est décrite d'une manière très particulière. Lui, il est véritablement en communication directe. À savoir qu'il n'y a pas cet écran qu'il peut y avoir, l'écran de l'imagination, l'écran des rêves et des visions. Il n'y a pas cet écran, c'est une parole qui est accueilli comme parole.
D'ailleurs, un des surnoms de Moïse en islam, c'est As-Samir, c'est-à-dire l'audient, celui qui écoute, celui qui a reçu par l'oreille.
Alors que beaucoup
d'autres... Qui a reçu Dieu par l'oreille.
Alors que beaucoup, les autres prophètes, eux...
Kalim aussi. On dit Kalim, c'est-à-dire qui a été en dialogue avec Dieu.
En revanche, les autres prophètes passent par l'intermédiaire de l'imagination, du rêve et de la vision. Donc il y a une... disons que c'est moins net. C'est moins net et il y a une médiation qu'il n'y a pas dans le cas de Moïse. Donc il y a aussi différentes sortes de prophètes. Et par ailleurs, ce que Moïse transmet a une autorité à laquelle ne peut en aucun cas être comparée l'autorité de ce que transmettent les prophètes postérieurs. Hein.
Oui.
Parce que bon, la Bible, c'est un livre un peu composite. Hein. Il y a des contradictions parfois entre ce qu'on on apprend dans le Pentateuque.
Hein? C'est comme s'il y avait des classes, le prophète...
Mahmoud Hussein.
Le prophète qui vient après Moïse rappelle le message, il le relance en quelque sorte, mais il ne vient pas ni lui ajouter, ni le modifier.
Nos auditeurs qui nous écoutent, donc nous écoutent en cette fin d'année, la toute dernière semaine de décembre, ils écoutent cette émission en différé qui a été enregistrée il y a un mois, fin novembre, le dernier week-end de novembre. Nous sommes contemporains de la fête du sacrifice chez les musulmans. Nous voulons donc revenir à la figure d'Abraham. Ce qu'il en est de pourquoi en islam le sacrifice a été institué. Là, je reviens à quelque chose que vous avez dû méditer, Mahmoud Hussein, en ayant écrit, pensé le Coran, la fameuse sourate, la cinquième sourate, Al-Ma'ida, qu'on traduit par la table servie, et le titre même renvoie en fait à la dernière scène. C'est considéré comme la toute dernière sourate révélée. Il est question dans cette sourate des trois alliances. On sait ce qu'il en est et quelle est la scénographie et les signes de l'alliance avec le peuple hébreu. On sait ce qu'il en est pour l'alliance. C'est justement la scène « Ceci est mon sang, ceci est ma chair » et l'hostie, donc un sacrifice totalement symbolique. Et avec le pèlerinage de l'adieu, auquel il est fait référence dans cette sourate, où donc il est dit « Aujourd'hui, je parachève pour vous votre religion », et ce parachèvement se fait par le sacrifice, et le signe de l'alliance musulmane est ce sacrifice. Qu'en est-il de ce sacrifice? Pourquoi ce sacrifice? Pourquoi la focalisation sur ce sacrifice? Le sacrifice aujourd'hui, ne pensez-vous pas que celui qui continue de sacrifier continue un geste finalement païen et qui est un geste qui fait que celui qui sacrifie n'est pas prédestiné à évoluer? Ne serait-ce pas là un des signes qui font que l'islam se fige?
Le problème, c'est qu'en étudiant en lisant tous ces livres sur la vie du prophète, comme je disais à propos du colloque, ces livres ont répondu à quelques questions, mais ils ont soulevé beaucoup d'autres questions qui sont sans réponse. Ce qui me rappelle un commentaire de l'un des exégètes de Coran qui disait que ceux qui entreprennent cette mission continuent à expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué et à ne pas expliquer ce qui a besoin d'être expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme le sacrifice là qui ne sont pas expliquées. On ne les touche pas. On n'essaie pas de comprendre pourquoi d'abord Dieu a donné l'ordre à Abraham de sacrifier son fils. Dans le Coran, il n'y a aucune explication. Dans les livres que nous avons lus, il n'y a aucune explication. C'est un fait. Dieu a donné l'ordre, c'est tout. Pourquoi on continue aujourd'hui à faire ça, à sacrifier les moutons? Non plus. C'est une habitude. Comme d'autres habitudes, d'ailleurs. Tout le pèlerinage, ou presque, ça vient de l'époque d'avant l'islam. Mais l'islam a continué à le faire. Pourquoi? On comprend pourquoi la Mecque est une maison sacrée. Parce qu'on nous explique que Dieu a donné l'ordre à Adam de construire la Mecque, qui a été construite de son temps, et après elle a été détruite, et après Abraham est venu pour la reconstruire. Alors on peut comprendre que c'est une maison sacrée, c'est une mosquée. Mais tout ce qui tourne autour, pour moi, ça reste inexplicable.
Et pourquoi les Juifs ne sont pas allés jusqu'à célébrer annuellement la substitution et que d'une certaine manière, le sacrifice chez eux reste mental, totalement symbolique, ou quand il a lieu dans une anthropologie qui procède d'une autre nature, comme celle du culte des saints, partagé d'ailleurs avec les musulmans pour les Juifs, par exemple, du Maroc ou d'Égypte?
Ceci étant, quand même, le judaïsme a connu une longue période sacrificielle, si je puis dire, puisque tout ça s'arrête en 70, donc lors de la destruction du...
Le fameux holocauste, c'est ça?
Oui, mais des sacrifices, il y en avait journellement...
Sur l'autel du temple.
Oui, absolument, oui. Et de toutes sortes. Et donc c'était un élément central du culte israélite antique que la pratique sacrificielle, les offrandes, les sacrifices sanglants, animaux bien sûr. Donc ça fait partie de l'histoire ancienne du judaïsme jusqu'à l'an 70 qui est l'année de la destruction du second temple. Mais ce qui est intéressant, c'est que le judaïsme... un siècle à deux siècles avant même la destruction du temple, c'était en quelque sorte lentement préparé à s'en passer. Et lorsque le temple est détruit, même si c'est vécu comme une catastrophe, le judaïsme est prêt en quelque sorte à s'adapter à ces circonstances historiques nouvelles et à mettre en place et à développer un culte qui se passe totalement.
Totalement
du sacrifice.
En somme, l'exil, fut-il une tragédie, peut produire du bien.
Oui, absolument. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si vous ne donnez pas à un exil qui a duré si longtemps un sens positif, il est tout à fait insupportable. Mais à partir du moment où il y a aussi cette dimension positive de construction de soi dans l'expérience de l'exil, il est non seulement supportable, mais il est valorisable. D'ailleurs, après, le Moyen-Âge juif va s'interroger sur... le problème de la destruction du temple, c'est qu'elle rend impossible l'accomplissement d'un bon nombre de commandements qui font partie des fameux 613 commandements transmis... par Moïse à Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les Juifs qui sont contraints de ne pas accomplir ces commandements sont des Juifs imparfaits, sont des Juifs incomplets? Est-ce que le judaïsme de l'exil est un judaïsme incomplet? Est-ce que finalement il est impossible aux Juifs en exil d'accomplir pleinement sa mission? La question est posée, la réponse est complexe. Et finalement, il y aura tout un système de substitution, c'est-à-dire qu'on ne sacrifie plus, mais on continue, par exemple, d'étudier très en détail tout ce qui a trait au culte sacrificiel et au culte d'un temple qui n'existe plus. Donc on substitue l'étude au sacrifice, on substitue la prière à l'offrande. Et donc il y a tout un système de compensation et donc de réélaboration du judaïsme qui fait que la perte du sacrifice et du culte du temple n'est peut-être pas tant que ça une perte.
Donc finalement, l'exil, là, je pense à une très belle page de Freud dans L'homme Moïse, allège, parce qu'il n'y aurait que le livre à porter. Hein, ni statue à porter, ni autel, que le livre à porter.
Oui, je ne sais pas si on
que
peut...
Que le rouleau.
D'un côté, l'exil allège, et de l'autre, il l'apesantit, il alourdit, bien sûr. Bien sûr.
Mais je voudrais revenir à l'histoire de sacrifice, là. Parce que en y réfléchissant...
Si les Juifs ont évolué, les musulmans peuvent évoluer, c'est ça
exactement,
ce que je veux dire.
Exactement, mais je veux savoir le sens du sacrifice. Parce que dans la Bible, je n'ai pas trouvé d'explication, mais chez les musulmans, on peut trouver une explication. Parce qu'en fin de compte, Dieu avait donné l'ordre à Abraham de sacrifier son fils. Mais son fils, lequel? Pour les Juifs, c'est Isaac. C'est Isaac, ouais. Pour les musulmans, c'est Ismaël.
Attention, Ismaël, par décision, oui. Et c'est devenu radical à partir du XIVe siècle. Ça appartient à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, un immense chantier. Prenez Tabari, le premier grand commentaire qui date de la fin du IXe siècle et qui recense 3 siècles de tradition orale ou écrite, mais qui ne nous sont pas parvenues. 17 hypothèse qui identifie à l'intérieur même de l'islam, parce qu'on dit le fils dans le Coran,
ouais. En
Isaac et 24 en Ismaël. Ouais. C'est la thèse identitaire qui finira par triompher
exactement.
Au XIVe siècle
exactement.
Pour construire ouais. un système très cohérent autour de la descendance ismaélienne.
Exact.
Mais c'est, encore une fois, c'est une construction. Et c'est une comme toute construction,
mais
c'est
oui,
de l'ordre de l'imaginaire et non de la vérité.
Dans la religion, les constructions ont leur importance.
Je dirais même plus que ouais. vous enlevez les constructions et vous n'avez plus de religion.
Non, c'est-à-dire, quand on a affaire à des constructions, on peut déconstruire et reconstruire et proposer d'autres constructions.
Moi,
je propose véritablement pour les musulmans d'ouvrir le chantier du dépassement du sacrifice. Ils sont 1,5 milliard. Ce jour du sacrifice, il y aurait, s'il était véritablement appliqué, 1 milliard de bêtes immolées. C'est proprement intolérable pour notre conscience et notre souci écologique.
Il faudrait revenir, évidemment, à tout ce qui semble s'imposer comme allant de soi et qui, au fond, peut se comprendre tout à fait autrement si on revient aux circonstances dans lesquelles on a proposé le sacrifice d'un agneau plutôt que du fils d'Abraham. Mais il faut quand même, pour la vérité des choses, dire qu'il y a une autre dimension dans l'islam, pas que dans l'islam, mais c'est de ça que je voudrais parler en quelques mots, c'est la dimension spirituelle. Elle n'est pas tributaire de l'explication rationnelle qu'on va chercher et trouver ou pas trouver d'ailleurs. C'est-à-dire que l'acceptation du sacrifice, c'est accepter de Dieu même quelque chose d'intolérable, en tout cas de tout à fait arbitraire. De cette acceptation, si elle est vraie, si elle est assumée en profondeur, naît une paix intérieure qui est très mystérieuse, qui est très difficile à capter, mais qui revient aussi dans le sens de l'épreuve que vous souleviez en disant l'épreuve de la dispersion, dans la mesure où elle est acceptée, pas nécessairement comprise, et c'est là vraiment la différence entre accepter et comprendre, que s'instaure un tout autre règne qui est celui de la paix intérieure, y compris dans le malheur, y compris dans quelque chose que tout ce qu'il y a d'humain en nous peut refuser. Alors, ça, curieusement, d'ailleurs, on retrouve, puisque nous parlons du tragique, on retrouve Nietzsche, on retrouve la mort fatie, on retrouve l'instant où il n'y a rien à comprendre et où il y a à vivre. Et quand on le vit vraiment comme une acceptation du destin, il y a une chance, de la dépasser dans une paix antérieure que les spiritualités des trois monothéismes peuvent retrouver sous cette forme-là. C'est-à-dire accepter intérieurement ce qui est, donc ne pas plaquer sur ce qui est ce qu'on aurait voulu qu'il soit ou ce qu'on préférerait, oublier tout ce qui nous vient du passé, oublier tout ce qui nous projette dans l'avenir, vivre l'instant dans sa pureté absolue, qui est un portail vers l'éternité. C'est une toute autre dimension que je voulais juste signaler parce qu'elle est dans l'islam.
Moi, je vous avoue que j'ai été, dès l'enfance, kierkegaardien sans le savoir, par l'expérience que j'avais du sacrifice, justement. Le fait même que la bête était immolée, que j'assistais à l'immolation de la bête dès l'âge de 2 ans, dans la maison même, à l'occasion de cette fête. Et les rêves que je faisais, et la terreur que cela produisait en moi, parce que je m'imaginais en rêve comme l'enfant qui allait être sacrifié. C'est-à-dire cette substitution de la substitution à l'envers, à l'arrière. Et cette notion-là, l'actualité nous l'a reproduite. Lorsqu'il y a eu cet abominable Moussab, là, le Jordanien, qui était le chef d'Al-Qaïda en Irak, et qu'il y a eu la mise en scène qui a été diffusée de l'égorgement de l'otage américain. Et comment le débat atroce qui a eu lieu, donc cette perversion terrible, hein, je me demande s'il n'y a pas propension à cela, du fait même qu'il y ait cette habitude du sacrifice, de l'égorgement de la bête. Moi, je vais très loin, là. Le débat qu'il y a eu lieu sur la toile pour discuter d'une manière tragique, véritablement. Là, on est dans tous les sens du tragique, c'est véritablement là, c'est vécu, mais ce n'est pas théorisé, ce n'est pas pensé, ce n'est pas représenté. C'est pour ça que j'en parle là, et de la manière la plus immédiate, la plus frontale, la plus crue. Le débat était de savoir si le couteau était si bien aiguisé ou non. Si, c'est-à-dire tout le débat, toute la casuistique.
Parce qu'il faut être clément.
Toute la casuistique qu'il y a sur le sacrifice de la bête a été reproduite sur cet abominable retour au sacrifice humain. C'est-à-dire la substitution qui a connu cette terrible régression, perversion terrible que connaît, qui se fait au nom de l'islam, en tous les cas, aujourd'hui, et qui nous rappelle que ce tragique résonne dans notre actualité.
De toute façon, je voulais revenir à l'histoire du sacrifice et dire que probablement pour les musulmans, pour les arabes et pour les musulmans, le sacrifice, ça signifie qu'on a sacrifié pour sauvegarder le père ou le grand-père des arabes, parce qu'Ismaël est devenu le grand-père des arabes.
C'est-à-dire finalement la victoire de l'hypothèse Ismaël, c'est ça ce que vous voulez dire?
Oui.
Mais il faut rappeler le temps de l'indécision, ça me paraît essentiel. Mais
exactement, vous avez, c'est la période la plus féconde de l'histoire de l'islam.
C'est pour ça que je ne cesse de dire que les musulmans ont un travail d'anamnèse à faire. J'utilise délibérément le terme psychanalytique. Jean-Christophe Attias, que pensez-vous de tout ce qui est dit là, du regard qui est le vôtre, qui est un... Oui, alors Mahmoud Hussein d'abord.
Du drame irakien, il n'y a absolument rien qui puisse justifier de repasser de l'agneau à l'homme. C'est une monstruosité. On ne peut pas faire plus anti-musulman. C'était juste pour le signaler.
Oui, non, je pense quand même qu'il faut insister sur la dimension régressive de la chose. C'est-à-dire que c'est à la fois une régression et une transgression. Une transgression radicale. Donc je pense que incriminer la tradition du sacrifice animal. Et en quelque sorte lui reprocher de prédisposer à des sacrifices d'une autre nature, ça me paraît peut-être aller un peu loin, parce que c'est justement l'inverse. Alors, il faut quand même être très prudent là-dessus, et le judaïsme lui-même est très prudent, il est interrogatif, puisque la perspective, c'est la reconstruction du temple.
Moi, je parle de rêve.
Et donc, la restauration des sacrifices. Alors, c'est une perspective, Dieu merci, si je puis dire, lointaine, et en tout cas, pas très précise, mais il y a ce débat, il y a cette espérance de la reconstruction d'un temple. Qu'est-ce qu'on va y faire? Est-ce qu'on va y réintroduire le sacrifice animal? Oui, pourquoi pas. Par ailleurs, l'absence totale de sacrifice, de tradition sacrificielle à l'intérieur d'une religion, ne préserve pas d'un excès de violence contre les humains, que je sache. Ouais. Et donc, on a un autre... Je crois qu'il faut penser aussi à une autre dimension qui est... Il y a le sacrifice de l'autre, le sacrifice de l'animal, il y a le sacrifice de soi. Et dans le sacrifice de soi, il y a même un excès et toujours une possibilité de retournement. Le sacrifice de soi, il peut se transformer ou s'accompagner du sacrifice de l'autre. Donc le problème de tous ces signifiants, c'est qu'ils peuvent être inversés et retournés très très facilement. C'est à la fois leur danger et en même temps ça nous ouvre toujours une porte de sortie, c'est-à-dire que bon, il y a sacrifice animal, oui, mais c'est précisément en garder en mémoire qu'il se substitue à un autre sacrifice. C'est quand on oublie qu'il est substitution qu'effectivement il peut prédisposer à d'autres violences. Il faut être très très... C'est malheureusement moins simple que cela, et la violence, y compris la violence sanguinaire, se retrouve dans des traditions non sacrificielles.
Oui, mais j'ai rappelé délibérément un exemple qui appartient au plus profond à l'humain, qui vient de la matière psychique, qui vient du rêve, d'un rêve que j'ai fait. Nous savons que tous les rêves qu'on croit faire seul, en vérité, tout le monde les fait. Donc j'émets cette hypothèse que bien des gens ont fait ce rêve-là, de s'être imaginé à la place de l'agneau quand, enfant, on assiste à de telles scènes de très haute violence, beaucoup plus violente que ne le pensent les adultes. Et ça me rappelle tout simplement, encore une fois, cette nécessité de mettre le musulman face à cette part du tragique. Je voudrais, parce qu'elle est équivalente, exacte, de ce que Jocaste dit dans Œdipe roi, et j'eus aimé que cette parole parvienne en arabe, au temps de la traduction des Grecs, à des huies musulmanes, lorsqu'elle dit, pour apaiser Œdipe, allant inéluctablement vers la révélation de sa vérité, qui se retardait, ce processus de la révélation était très très beau, qu'il fût incestueux et parricide, lui dit, Jocaste qui lui dit, mais qui n'a pas rêvé qu'il a couché avec sa mère?
Je vais dans votre sens et je dirais que le sacrifice là, ça me touche, mais pas exactement. Il y a des rites qui font beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, et des problèmes, comme vous dites, psychologiques. Sont comme la circoncision, par exemple. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bien? Pour le médecin...
Mes rêves associés, ces deux épreuves de sang.
Ah, bon... Nous ne sommes pas sortis. Moi, je voulais. Nous ne sommes pas sortis.
Mais il y a là quelque chose avec le sang dont on peut difficilement se défaire. Hein.
Voilà, je tenais à insister sur toutes ces dimensions du tragique, les dire crûment et ce qu'il en est du tragique et de ses répercussions dans les consciences formées en tant qu'imaginaire et symbolique par l'islam. Je rappelle tout simplement que le passage du sacrifice de la bête au sacrifice de l'homme qu'on avait évoqué tout à l'heure est la définition par excellence de la folie par Lacan. Puisqu'on passe de l'ordre du symbolique et de l'imaginaire où se réalise le sacrifice de la bête vers, on fait passer ce qui devrait avoir lieu dans le symbolique et l'imaginaire dans le réel. Et lorsque du symbolique à l'imaginaire, on bascule vers le réel, c'est la définition même de la folie. Merci, merci à vous trois, merci de cette conversation. Merci. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, coordination Dominique Compétissa, technique Patrice Klein, réalisation mise en onde François Connac.